Il n'est pas sympathique du tout. Il n'a jamais le sourire. C'est un voisin disgracieux et méchant. Et comme il est mon voisin, c'est que je suis aussi son voisin et que je vis près de lui et que je dois chaque jour le rencontrer. Et chaque jour, il me fait des grimaces. Et aujourd'hui, il a fait quelque chose d'encore pire. Aujourd'hui, il m'a insultée. Il m'a traité de tout, tout simplement parce que j'ai légèrement froissé son orgueil ou tout simplement parce que j'ai fait du bruit en claquant mon portail. Il m'a insultée. Celui qui vit complètement tourné à l'extérieur et qui s'identifie à tout ce qui existe à l'extérieur et qui croit l'extérieur. L'insulte sera véritablement une chose de souffrance. C'est-à-dire que la personne insultée va prendre l'insulte pour elle-même, l'introduire dans son ventre, dans son plexus solaire, va ressentir le désagrément, ruminer sur ce désagrément, souffrir à propos de cela et réagir à propos de cela. Si bien que celui qui est insulté va découvrir à un moment donné une agressivité et va se mettre, par exemple, à riposter, soit en parole, soit par des coups. Ça, c'est le comportement de l'homme normal. Qu'est-ce que le comportement d'un homme de joie ? Le comportement d'un homme de joie, cela ne va pas être un homme qui va béatement sourire à son voisin qui gesticule en faisant mille et une grimaces, toutes horribles les unes plus que les autres. Il va dire « oui mon frère, mais je t'aime mon frère, oui je suis un imbécile, je le sais, mais tu as mille fois raison, mon Dieu que je t'aime quand même ». Un homme de joie ne va pas réagir non plus de cette façon-là, tout simplement pourquoi ? Tout simplement parce que l'homme qui est en train de l'insulter va devenir de plus en plus agressif, va conclure que son voisin est un véritable idiot et lui envoyer un magistral coup de poing en pleine figure parce qu'il va se sentir insulté, mais de manière niaise cette fois. Il va se dire « celui-là, il me prend vraiment pour un imbécile ». Car en plus qu'il a claqué le portail, il n'arrête pas de me dire qu'il m'aime, que je suis son frère, qu'il est mon frère. Je vais lui montrer comment je suis son frère. Donc, comment réagit un homme de joie ? Un homme de joie va réagir par la voix du milieu. Il ne va pas pleurer, il ne va pas sourire. Il va regarder et être un gouffre dans lequel l'insulte va tomber et se perdre sans plus jamais raisonner. Un gouffre. Comment peut-il être ce gouffre ? Tout simplement parce que il comprend, il sait que toutes les insultes qu'est en train de prononcer son voisin, toutes ces insultes ne sont pas des identités. C'est-à-dire que celui qui est insulté ne se dit pas « je suis insulté ». Il ne s'identifie pas à l'insulte. Lorsque l'autre lui dit donc « tu es un imbécile de la pire espèce », il ne participe pas à ce jeu d'image. Il ne prononce pas avec l'autre « oui, je suis un imbécile de la pire espèce ». Et comme l'individu n'est pas intéressé d'être un imbécile de la pire espèce, alors il réagit, il dit « non, je ne suis pas un imbécile de la pire espèce ». Et alors les deux hommes commencent à argumenter parce qu'un affirme et l'autre renie. Et c'est comme cela que commencent les disputes. Alors autant ne pas croire à l'identification dès le début. Tu es l'imbécile de la pire espèce, dit le voisin agressif. L'homme de joie le regarde et ne dit rien. Qu'est-il en train de faire pendant ce temps ? Pendant ce temps, il entend son âme lui dire « Tu es lumière, tu es lumière. » Tu es lumière, tu ne saurais pas être un imbécile. Par contre, ton voisin a le droit de te voir imbécile parce que sa vie est pauvre, triste, malheureuse, étroite, sans lumière. Mais tu es lumière, tu es lumière. Et dans ce gouffre de lumière, toutes les insultes de la terre peuvent entrer. Elles s'y trouveront complètement dissoutes. Grâce à ça, peut émerger une autre qualité, primordiale dans la vie du disciple. Une qualité qui est un véritable casse-tête pour le disciple s'il ne sait pas ce qu'est ce gouffre profond. Ce qui est donc son pouvoir d'anéantissement. L'autre qualité qui en ressort, c'est le pardon. Si je crois que mon voisin veut me persuader que je suis un imbécile, ou bien si je crois qu'il est important que je me défende d'être un imbécile parce que je ne veux pas que mon voisin ait de moi l'image d'un imbécile, me vive comme un imbécile, me traite comme un imbécile. Automatiquement, dès qu'il va me traiter d'imbécile, dès que je vais croire cette image, je vais lui en vouloir. Et c'est parce que je lui en veux que je vais riposter. Parce que je ne veux pas qu'il croie cela de moi. Moi, je veux être quelqu'un de bien. Je ne vais donc pas supporter que mon voisin croie que je suis idiot. Je dois réagir. Allons, bouge-toi. Crée-toi une belle image. Défends-toi. Et alors, le pardon ne peut pas exister. L'homme va passer son temps à se défendre parce qu'il a été attaqué. Et il va se défendre avec la même hargne. Et beaucoup de gens diront, mais je ne lui en veux pas. Je ne lui en veux pas. Je ne lui en veux pas. Cependant, lorsque l'on regarde ce qui se passe dans le subconscient de la personne, on s'aperçoit très bien que la personne en veut à son ennemi. Comme tout à l'heure, pour aller à la confiance, il ne s'agit pas de contredire le doute. Ici aussi, pour aller vers le pardon, il ne faut pas étouffer en soi l'envie de riposte qui monte aux lèvres et aux joues. Car lorsque l'on va à droite, l'on va revenir à gauche. Pour découvrir le pardon, si l'on veut cultiver cette qualité-là, il ne va pas falloir prendre sur soi et étouffer l'énergie qui veut riposter et se dire par la même, mon Seigneur, je n'ai pas encore fini le travail sur moi-même. Lorsque un tel m'a dit quelque chose, j'avais une envie de répondre, tu ne peux pas savoir. Il a fallu que je me retienne, que je me retienne. Je lui aurais pourtant cassé volontiers la figure. Et si Dieu pouvait te parler, il te dirait, mais ne te retiens pas. Casse-lui la figure. Car il vaut mieux que les deux peaux soient cassées plutôt que de faire entrer en toi un ver qui va te ronger par l'intérieur et qui va peut-être te poursuivre au long de plusieurs incarnations. Sous prétexte de développer la spiritualité, beaucoup d'individus ne font en fait que surcharger leur subconscient, leur inconscient avec des monstres incroyables. Parce qu'on leur a parlé du péché, parce qu'on leur a dit « un homme spirituel n'est jamais en colère, un homme spirituel n'est pas attaché à l'argent, ou n'est pas attaché à ceci, ou ne dit pas ceci, ou ne pense pas à cela. » Face à une forêt d'interdits, l'individu se dit « si je veux être spirituel, je dois pouvoir accepter tous ces interdits, alors je ne dirai plus ceci, je ne penserai plus cela, je ne ferai plus ceci, je ne ferai plus cela, je ne mangerai plus ceci, je ne mangerai plus cela. » Et que se passe-t-il? Eh bien, il se passe tout simplement que sa zone de liberté devient de plus en plus rétrécie et que la spiritualité, au lieu d'être un mouvement de libération, devient une prison insupportable. Si bien qu'en quelques incarnations, on peut voir ce genre d'individu, d'un seul coup, arriver sur la planète, dans le corps d'un être complètement schizophrène. L'intention était spirituelle, soi-disant, au début. Mais l'homme ne savait pas comment être spirituelle. Il faut être spirituel par alchimie et pas par obéissance. Si j'obéis à une loi, cela veut dire que le jour où je n'ai pas envie de lui obéir, je vais créer une désobéissance et je risque un karma. C'est ce que pensent les gens. Par contre, si j'admets que je veux chaque fois obéir à la loi, cela veut dire que je ne vais pas pouvoir faire tout ce qui me plaît ou tout ce que je veux. Donc, ce genre d'individu va en fait plus méditer sur l'interdit que sur le principe de la loi elle-même. Ce qui fait que, par exemple, un individu qui évolue, qui se dit non, un individu qui veut évoluer, qui veut recevoir une initiation, ne peut plus avoir d'activité sexuelle. Ça, c'est certain. Je l'ai entendu dire de tous les sages, je l'ai entendu dire de la part de tous les ermites, de la part de certains initiés, il ne faut plus d'activité sexuelle. Que déclenche l'individu qui pense de la sorte? Mentalement, il déclenche en fait une préoccupation autour de l'interdit. Je ne dois plus avoir d'activité sexuelle. Je ne dois plus avoir d'activité sexuelle. Ce qui fait que toute la journée, il pense en fait à la sexualité qu'il ne peut pas avoir. Et comme il ne peut pas l'avoir et qu'il y pense, au bout d'un certain temps, cela finit par devenir insupportable. Et la somme de cette énergie monte et s'extériorise soit en agressivité verbale, soit en impatience, soit en orgueil mental ou en je ne sais quoi d'autre. Mais en tout cas, cette énergie ne reste pas tranquille. Parce qu'elle est jugulée, parce qu'on lui dit « tu es là, mais tu ne bouges pas, c'est interdit ». Moi, je veux aller vers Dieu. Alors, tu te tais, tu restes dans le pantalon, tu serres les fesses et tu ne bouges plus. Lorsque l'on veut aller vers la spiritualité et que l'on veut régler ce problème, entre parenthèses, comme disent certains, qui est la sexualité, eh bien, il ne faut pas dire à l'énergie « tu vas rester là, je mets un bouchon et tu me laisses tranquille ». Car l'énergie est là. Et l'énergie est vive. Elle va monter. Et si elle ne veut pas monter par là, elle montera par ailleurs. Où vous ne l'attendez pas, où vous êtes peut-être plus fragile et où il y aura de gros dégâts. Donc celui qui veut évoluer en travaillant sur ce cas précis ne va pas devoir créer d'interdit. Cela ne veut pas dire qu'il va pouvoir effectuer tout ce qu'il souhaite sur le plan sexuel et se trouver l'excuse que Dieu le prendra malgré tout comme il est. Il faut qu'il regarde la chose depuis le centre, depuis la voie du milieu. Si je ne peux pas le pratiquer abusivement, mais que je ne peux pas non plus créer d'interdit, depuis où vais-je contempler cette énergie et la manipuler? Depuis la voie du milieu. Depuis la voie du calme. Quelle va être alors ma position? Ma position va être de d'abord connaître la nature de cette énergie. Si je me place dans les deux pôles d'interprétation, je me dis « Oh, c'est du sexe, le sexe, ouah, ah, c'est sale le sexe. Que je l'aime ou que je l'aime pas, c'est une énergie qui est vécue de façon sexuelle. Et si je l'aime, c'est vécu de façon psychologique au niveau des fantasmes. Si je ne l'aime pas, c'est vécu de façon émotionnelle au niveau du sens du péché et des rejets. Mais de toute façon, c'est quelque chose qui ne sera pas vécu proprement. Donc, qu'est-ce que je dois faire? En la voyant depuis la voie du milieu, je vais contempler cette énergie dans sa nature véritable. Qu'est-ce qu'elle est, cette énergie? Elle n'est pas l'énergie sexuelle. Je me trompe. J'ai toujours cru que c'était une énergie sexuelle. J'ai toujours cru que c'était cette énergie-là qui me portait vers le sexe opposé, qui me donnait envie d'avoir du sexe, d'assumer ma sexualité. Mais je me suis trompée. Ce n'est pas vrai. Cette énergie n'est pas sexuelle. C'est de l'énergie, c'est tout. Mais moi, quand j'étais tout petit, si petit que ce n'était que mes centres inférieurs qui dirigeaient ma vie et qui étaient ouverts, automatiquement, ces centres, étant inférieurs, articulaient cette énergie de façon inférieure. Si bien que lorsque j'étais rivée dans ces centres-là, que sont par exemple le centre sacré et le plexus solaire, il me semblait que j'avais envie de sexualité, envie d'émotion. Non parce que mon corps avait envie ou parce que moi j'avais envie, mais tout simplement parce que ma conscience n'allait pas plus loin que ces centres-là. Alors l'énergie qui montait, et qui est l'énergie de la matière ou l'énergie de Kundalini, cette énergie qui montait ne trouvait comme moyen d'expression que le sexe et les émotions. Mais la faute n'est pas à cette énergie, car maintenant que je la contemple, je vois bien qu'elle n'est pas sexuelle. Je lui ai toujours mis tout le fardeau des fautes sur elle. Et en fait, j'avais tort. Il me suffisait de monter ma conscience à travers les plans. Et l'énergie me suivait comme un enfant sage et discipliné. Et elle distribuait son nom dans les plans supérieurs et dans les chakras supérieurs. Donc, si tu as un problème avec la sexualité ou que tu estimes que ton évolution est telle que tu dois travailler sur le sujet, ne bloque pas cette énergie. Regarde-la comme elle est, comme étant une fontaine extraordinaire de puissance qui vient de la matière et sort de la matière et doit rejoindre son corps glorieux qu'est l'âme. Et aide-la à faire le passage. Monte la conscience. Dilate tes centres d'intérêt au lieu de penser toujours à ceci ou à cela. Élève tes centres d'intérêt. Et des actions en correspondance avec ces centres d'intérêt. Ainsi, tu ouvres le chakra du cœur et une fois ouvert, ce chakra aspire l'énergie. De cette façon-là, elle ne te dérange plus dans les centres que tu appelles inférieurs. Mais ne bloque rien, surtout pas. Monte tes centres d'intérêt. Donc, lorsque l'on veut non seulement évoluer, mais aussi servir l'évolution des autres, l'évolution de la Terre, ou collaborer avec des guides ou avec des maîtres, il ne s'agit pas de trouver un truc pour pouvoir soit entrer en communication, ou il ne s'agit pas de contrôler sa nature inférieure pour pouvoir déclencher des connexions. Il faut tout simplement et sans cesse se mettre dans la voie du milieu. Dans la voie du milieu est la source du contrôle de soi, est la source de l'intuition, de l'inspiration. Toutes les informations peuvent venir. Mais se mettre dans la voie du milieu est quelque chose de très difficile. Difficile pourquoi ? Difficile pour l'homme parce qu'il imagine toujours qu'il doit construire quelque chose. Quand on lui parle de spiritualité, il se dit « Ah, c'est très bien, eh bien, je vais remonter mes manches et je vais construire. Je vais construire mon corps éthérique, mon corps astral, mon corps mental, et puis le pont, le fameux Antakarana. Je vais construire à Dieu une superbe demeure, il sera très content et il viendra m'illuminer. » Il faut savoir que dans la spiritualité, il n'y a rien à construire, mais tout à abandonner. L'instinct de construction, c'est ce qui anime la personnalité qui est prise au piège des identifications dans le monde en mouvement. Alors quand on dit à un esprit, à un individu, quand on lui dit « sois spirituel », et qu'il reçoit cette information avec tout son réseau de réactions qui est encore largement imprégné par toutes les identifications, Il dit, bon, je dois construire ma spiritualité. Comme j'ai construit ma profession, ma maison, ma vie de famille, mon image. Faux. C'est justement l'inverse qu'il te faut faire. Déshabille-toi. Enlève hors de toi tout ce qui est pesanteur, tout ce qui est balancement de gauche à droite, et place-toi dans la voie du milieu. De quelle façon se place-t-on dans la voie du milieu? On s'y place en étant à l'écoute de tout ce qui a lieu en soi, jusque dans la nature inférieure. Donc, il faut, avant de connaître son âme, bien connaître sa nature inférieure. Il faut se connaître dans toutes les réactions possibles, dans tous les instincts possibles, et parfois les plus bas. Et l'homme a peur de se rencontrer jusqu'à ces niveaux-là. Il a peur parce que il a besoin de s'aimer lui-même, de s'accepter lui-même, de s'apprécier lui-même. Alors si tout d'un coup, il apprenait qu'en lui, il y a une telle infériorité, que dans telle ou telle action, il est un diable, il ne supporterait pas, alors il ne va pas voir. Il construit au contraire son image spirituelle, et il apprend à propos des maîtres, et il fait des invocations, et il appartient à des groupes qui font des rituels ou des méditations, et il construit, et il construit. Et il met quoi, en fait? Il met du plâtre sur une jambe qui ne peut être soignée que si on y met un peu d'amour et de lumière. Ce n'est pas le plâtre qui va soigner la jambe, mais l'amour et la lumière. Or, pour déclencher cet amour et cette lumière, que ce soit vis-à-vis des autres ou vis-à-vis de soi, il faut avant tout oser descendre jusque dans les ténèbres. C'est primordial. Je ne peux pas créer sur le haut de la maison une grande terrasse ouverte pour recevoir le soleil si je n'ai pas d'abord fait des fondations à ma maison. Et si au fur et à mesure que j'ai construit ces fondations, je n'ai pas pris le soin de les assécher, de les nettoyer, qu'elles soient propres. Je dois absolument descendre dans mes ténèbres, savoir qui je suis, mais qui je suis en tant qu'être inférieur. Et lorsque j'aurai atteint le fond, je pourrai remonter. La remontée se fera toute seule par le simple fait que j'ai atteint le fond. Automatiquement, le fond va me renvoyer. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je dis par là que si un homme ne connaît pas tous les aspects de sa nature inférieure, il ne peut pas non plus connaître les énergies qui, s'étant endormie, étant devenue inconsciente, s'articule sur le plan inférieur comme étant inférieur. Par contre, je peux très bien connaître la nature d'une énergie, donc très vite savoir la vivre de façon supérieure, si je descends jusque dans sa manifestation terminale, que représente par exemple l'instinct, la réaction émotionnelle ou affective. Je prends bien connaissance de cette chose qui paraît très inférieure. Je la vis fortement. Et en la vivant fortement, en l'acceptant totalement, je découvre en moi-même qu'ainsi, je ne m'identifie pas à la chose, mais que je suis tout simplement une énergie, comme je suivrais autre chose, une musique ou un parfum. Je la suis jusque dans ses profondeurs. Et au moment où j'arrive dans les profondeurs, j'y arrive avec la connaissance de ce qu'elle est dans ses plans supérieurs. Et donc, peut-être la première fois, je retombe dans le piège de la vivre de façon inférieure. Mais la seconde fois, je ne tombe plus dans le piège. La seconde fois, je la contrôle. Et jusque dans le plan terminal de sa manifestation, je l'articule de façon supérieure. On ne peut pas développer la spiritualité sans aller jusque dans le profond de ses ténèbres. L'homme crée toujours des séparations. Il sépare Dieu et sa personnalité, il sépare Dieu et la matière, et il sépare son plan inférieur de son plan supérieur, en ayant soin de bien colmater la frontière pour qu'il n'y ait surtout pas d'interférence. Et assis sur un véritable tas d'ordures, il invoque le nom de Dieu et construit son temple. Et il s'imagine que cela va marcher. Il s'imagine que Dieu va poser les fondations sur ce tas d'ordures. C'est impossible. Et non pas parce que les ordures sentent mauvais, mais parce qu'un tas d'ordures représente un sol très mouvant, sans équilibre. Si on y pose ne serait-ce qu'une brique, peu à peu la brique va s'enfoncer jusque dans le cœur des ordures et disparaître. Donc Dieu n'en verra rien, sinon l'ordre de nettoyer, de faire un endroit complètement plat et un endroit, si possible, capable de recevoir. Cet endroit capable de recevoir sera en même temps l'endroit où ce calme va se créer. Calme nécessaire pour qu'il y ait le lever de l'âme à l'intérieur de chaque individu. Il ne peut pas y avoir de lever de l'âme en moi si je balance sur le tas d'ordures du plaisir ou sur le tas d'ordures de la tristesse. Ce sont des endroits trop mous et complètement illusoires. Le temple se fait au milieu, comme une cheminée au milieu de la maison. Donc, pour revenir aussi à la question, que faut-il faire pour être des personnes de joie à l'heure actuelle? Eh bien, il ne faut pas se dire « moi je crois au nouveau monde, je crois dans ce magnifique monde qui va venir ». Où on dit même que le Christ va réapparaître. Alors, je ne vais pas perdre de temps avec les douleurs qui existent encore aujourd'hui. Je me projette dans l'avenir et j'essaye de faire partager mon espoir avec tout le monde. C'est ce que font certaines personnes, mais ce n'est pas bien. C'est l'espoir du désespoir. Et ce n'est pas un espoir qui a une espérance de vie très longue. À n'importe quel moment, le désespoir peut reprendre le dessus. Et c'en est terminé du nouveau monde. C'en est terminé de l'idéal intérieur. Comment être un homme de joie? Tu peux être un homme de joie en ne croyant plus en rien du tout. Contrairement à ce que tu penses. Tu seras un homme de joie quand tu ne croiras pas plus au nouveau monde que ce que tu crois à l'ancien monde. Parce que tu sais que, nouveau ou ancien, le vrai monde n'est pas ici. Le royaume n'est pas là. Et que ce qui est là, c'est simplement l'antichambre du royaume. La cour où se rassemblent tous les enfants sans maturité. Les enfants sans connaissance, qui vont se battre les uns les autres, se dominer les uns les autres, faire feu les uns sur les autres. Il est donc tout à fait normal que cette antichambre soit l'endroit du désordre, de la mort, des martyrs, des massacres, et quelquefois aussi du plaisir, puisqu'il y a des endroits calmes où on peut s'amuser. Tu seras un homme de joie quand tu auras appris à ne plus croire en quoi que ce soit, mais à contempler ton âme et la lumière du ciel. Là est le véritable siège de la joie. Avant, il n'y en a pas. Tu peux en avoir quelques jours, et puis ne plus en avoir le lendemain. Et tu es un être instable, qui un temps se trouve au-delà des vagues de l'océan, et qui un autre temps sombre complètement au fond de l'océan. Alors tu vois le maître le temps où tu nages, juste au-dessus des eaux. Et puis tu ne vois plus le maître, tu n'entends plus le maître, sitôt que tu sombres. Et que tu vois des tasses, et tu cries, et tu pleures, et tu doutes. Et lorsque tu lèves les yeux pour contempler le ciel, tu ne vois plus que des étoiles troublées, parce que le mouvement des vagues trouble ta vision. Alors une bonne fois pour toutes, amorce ta remontée, gentiment, calmement, sûrement. N'aie pas de hâte. Ne te dis pas, je dois me dépêcher d'être un initié. Mon Dieu, qu'il me tarde d'être un initié. Je serai heureux quand je serai un initié. Je serai libérée. Je n'aurai plus de problèmes, plus de maladies. Je comprendrai tout. Je saurai tout décider. Je n'aurai plus de problèmes de décision. Et l'individu s'en trouve par là envahi d'impatience. Faux, faux, faux. La voie du milieu, c'est d'abord la voie de la patience. Tu ne peux pas trouver la paix, le silence de cette voie du milieu si tu n'as pas la patience. Dès que tu as la patience, dès que tu es capable donc de créer le silence sur toute chose, même sur tes rêves, même sur tes aspirations spirituelles, tu découvres cette voie du silence. Tu peux faire autant de bruit et de massacre avec l'aspiration spirituelle que tu en fais avec, par exemple, le désir de jouissance sexuelle ou de je ne sais trop quoi d'autre. C'est le même bruit, mais tu ne t'en aperçois pas parce que tu te justifies par la spiritualité. Tu te dis, mais je veux faire des efforts, je veux travailler, je veux trouver, je veux évoluer, je veux y aller, je veux découvrir mon art. Et croyant te justifier par toute cette spiritualité, tu ne t'aperçois même pas que tu crées un vacarme immense dans lequel tu te perds, dans lequel tu n'entends plus ni l'inspiration, ni la voix de Dieu, rien du tout. Calme, silence, rien ne presse. Toute l'éternité est devant toi. Tout est en toi. Ne te précipite pas à l'extérieur. Replie-toi à l'intérieur. Et dans cet intérieur, écoute le silence. Tu n'as rien d'autre à faire que écouter ce silence. Et au bout d'un certain temps, tu t'apercevras que ce silence qui semblait silence dans les premiers temps. Pourquoi il semblait silence? Tout simplement parce que ton oreille était tellement habituée à entendre des vacarmes grossiers que lorsque ton oreille se penche vers les sons subtils auxquels elle n'est pas encore habituée, elle a l'impression de ne rien entendre du tout. Mais ce n'est pas le silence qu'il y a à l'intérieur de toi. C'est la voix de la vérité. Mais il est vrai que tu ne peux l'entendre qu'en passant par cette impression de silence. Et que veut dire cette zone de silence? Elle veut dire tout simplement que tu marches dans une étape intermédiaire qui va de la grossièreté à la subtilité. Et qu'entre ces deux points, eh bien, il te faudra t'adapter. Tu es comme un musicien qui, par exemple, toute sa vie aurait joué de la batterie. Et tu es habitué au son lourd, grave, percutant de cette batterie. Et lorsque Dieu arrive et qu'il te dit, mais tu sais, Ma musique est d'un autre son. C'est un son léger, aigu, très fin. Arrête de taper sur tes tambours. Le disciple accepte. Il se dit, bon d'accord, je vais arrêter de taper sur mes tambours. Donc je vais arrêter d'être émotionnel, je vais arrêter d'être sexuel, je vais arrêter de manger comme un goinfre, je vais arrêter de faire des fantasmes. D'accord, je ne tape plus sur mes tambours. Et puis il s'assoit, il se met à l'écoute de la musique. Un petit moment passe, il n'entend rien. Il se dit, ça c'est bizarre, alors Dieu m'avait pourtant dit qu'il existait des sons subtils, qu'il existait des sons aigus, très fins, que je pourrais entendre. Il se met encore une fois à l'écoute, il tend l'oreille, il crispe son attention, il se dilate tout entier dans cette écoute, et au bout d'un moment il se dit, mais ça n'est pas possible, je perds mon temps, Dieu a dû se tromper, ou bien il ne m'a pas indiqué la bonne oreille avec laquelle je devais entendre. Ce n'est pas possible, je n'entends rien. Alors au bout d'un moment, la musique commence à lui manquer. Il se dit, ah, j'irai volontiers, rien qu'un tout petit peu, Seigneur, taper sur mon tambour. Celui qui est là, tout rose à côté de moi, le tambour de l'alimentation. Allez, laisse-moi manger une bonne pizza ce soir. Et surtout, ne dis rien. Ne me montre pas du doigt en me disant l'affreux gourmand, le vilain gourmand qui ne sait pas contrôler son estomac. Et ainsi, petit à petit, parce qu'il n'a rien entendu, l'individu retourne taper sur un tambour. Puis le lendemain, il va taper sur deux tambours. Et au bout d'une semaine, on le retrouve en train de jouer sur la batterie complète. Et Dieu qui repasse lui dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Est-ce que je ne t'avais pas dit de ne plus taper sur les tambours? Le disciple baisse la tête et lui dit, oui Seigneur, je fais ce que tu m'as dit. Je suis restée dans le silence. Mais la musique commençait à me manquer. Alors j'ai tapé d'un tambour et puis tu le sais, un tambour, on appelle un autre et voilà qu'au bout d'une semaine, je rejoue de la batterie. Alors Dieu secoue la tête et dit, ça ne va pas, ça ne va pas, tu n'as rien compris. La musique existe en toi, mais sois patient. Il faut que tu prennes suffisamment de temps pour fermer l'oreille qui était trop ouverte sur les sons grossiers, afin que s'ouvre l'oreille qui est ouverte sur les sons aigus. Un triangle se ferme au profit d'un autre qui s'ouvre, mais il faut un peu de temps pour cela. Alors recommence. Arrête pendant une semaine de jouer ton tambour. Et le disciple, cette fois, fort du conseil, redémarre une semaine d'assaise. Et une fois de plus, il passe par le silence éprouvant. Et une fois de plus, il sent l'envie de rejouer du tambour. Et cette envie le crispe, cette envie le fait se tordre comme une souffrance. Mais cette fois, il tient bon, parce qu'il sait qu'il faut du temps pour que le triangle du bas se referme, ouvrant ainsi le triangle du haut sur le cosmos. Alors il se laisse le temps, même s'il voit sa personnalité souffrir et se tordre. Lui, il sait quelle part de lui-même est en train de s'ouvrir. Alors, il n'écoute pas les appels de la personnalité. Et au fur et à mesure, son triangle supérieur s'ouvre. Et un beau matin, il entend le premier son. Il entend un aigu fantastique, le même aigu que celui qui fait tourner toutes les sphères dans le cosmos, qui projette les comètes dans l'espace. Et il est tout heureux. Il est tellement heureux qu'il a l'impression de devenir fou, tellement il lui semble en un seul coup, en une seule vision, comprendre le cosmos tout entier. Il s'était préparé pour écouter un son, et voilà qu'il voit l'univers en entier. Découvrir à ses yeux sa magie, sa fonction, sa mécanique, tous ses secrets. Alors son esprit éclate, et ils font en larmes et ils remercient le Seigneur. Et il comprend à quel point passer quelques secondes pour fermer le triangle du bas était peu de chose par rapport à tout ce qu'il contemple maintenant. Et il contemple toutes les sphères de l'univers, portées par ce son, être bougé par ce son, exactement comme un jongleur fait tourner un ballon au bout du doigt. Et c'est un spectacle tellement beau qu'il ne sait même plus s'il est un être humain ou s'il est devenu le cosmos tout entier. Car là est une autre notion qui vous attend. Le jour où vous basculez de l'autre côté, c'est cette notion de beauté. Vous m'avez demandé pourquoi ou comment être un être de joie aujourd'hui alors que tout est souffrance. Et par là même, vous me demandiez pourquoi est-ce que le monde était souffrance. Mais moi, je vous demande pourquoi est-ce que le monde est laideur alors qu'en nous, tout est beauté. Pourquoi est-ce qu'ici, tout est laideur? Et là, c'est vous qui devez m'instruire de la réponse. Je ne peux pas comprendre. Il se trouve pourtant que je suis initiée. Il se trouve pourtant que je suis plus ancien que vous. Et que grâce à cela, je peux comprendre un certain nombre de choses. Mais cette connaissance-là, je ne l'ai pas. Je ne la comprends pas. Je n'arrive pas à la faire entrer dans ma tête. Pourquoi tu en fais un monde de laideur? Instruis-moi de cette connaissance. Dis-moi. Instruis-moi de ta nature. Pourquoi es-tu si volontiers, si volontairement horrible? Alors que depuis des millénaires, tout est donné, tout a été dit, tout est redit. Pourquoi systématiquement est-ce que tu rabaisses le triangle? Pourquoi est-ce que systématiquement tu dévitalises l'âme? Tu cristallises ces énergies pour devenir un vieillard et qu'une fois que tu es vieillard, tu lèves vers nous des mains implorantes pour demander de venir changer le monde? Soit tu lèves des couteaux et tu dis « Si moi je meurs, toi aussi, même si tu es le Christ. » C'est à toi de me dire pourquoi. Et si je te le demande, c'est pour qu'avant tout, tu réfléchisses sur toi-même. Pourquoi est-ce que je fais telle chose? Pourquoi là je l'ai fait de cette manière-là? Pourquoi là j'ai dit ça? Pourquoi là j'ai pensé ça? Pourquoi là j'ai projeté cela? Pourquoi là j'ai rêvé ça? Pourquoi? Au lieu de t'interroger sur ce qu'est un maître, demande-toi pourquoi ta laideur existe. Pourquoi tu agis en tant qu'être de laideur? Et tu en apprendras bien plus sur les maîtres de cette manière-là. Pourquoi? Parce que tout simplement, en contemplant tes ténèbres, en regardant une bonne fois pour toutes ce que tu fais de mal, tu sauras faire ce qui est bien. Faisant ce qui est bien, automatiquement le maître vient vers toi, ou le maître se lève en toi. Tu n'as pas besoin de savoir qui est le maître, à quelle heure tu vas le rencontrer, en faisant quoi, comment. Tu peux rencontrer le maître une fois que toi-même, tu sauras qui tu es, pleinement. Mais pour le savoir pleinement, il faut descendre dans les ténèbres. Descendre dans les ténèbres, cela veut dire quoi? Cela veut dire, avec toute ma conscience, je regarde ce que je fais, même ce que je fais de plus horrible. et y apportant ainsi l'énergie, l'étincelle de la conscience. J'arrive à ne plus faire les choses de façon horrible. Alors que si je n'y apporte pas l'étincelle de la conscience, je fais les choses de manière inconsciente, de manière automatique. Je fais les choses par réaction. Et dans ce monde d'inconscience, je peux alors devenir un monstre, car je ne suis un monstre que si je suis de l'inconscience. Parce que l'inconscience ne sait pas juger. L'inconscience ne sait pas être amour. L'inconscience ne sait pas être lumière. L'inconscience ne sait pas pardonner. Que voit l'inconscience ? L'inconscience voit un voisin qui l'insulte. Elle est inconsciente, elle se dit « je ne peux pas accepter ça » et elle envoie de l'agressivité. Si je suis inconsciente, c'est de cette manière-là que je vais réagir. Et c'est pour ça que je vais mourir, et mourir mille fois. Pourquoi est-ce que vous mourrez ? Vous êtes-vous déjà posé cette question ? Vous acceptez tout sans réfléchir ? Comme un bœuf accepte qu'on lui accroche le joug. Alors on accroche le joug de la religion et le bœuf tire Dieu, tire le péché, tire la Vierge Marie. Et il croit ainsi labourer un champ parfait. On lui met le joug de tout ce que l'on veut, cela marche. L'homme est tellement inconscient qu'il suffit qu'on lui dise « Mais non, moi je suis un bœuf, moi j'ai des